La première, podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bienvenue dans les Belges du bout du monde. Vous êtes lents dans vos vieilles godasses. Il serait temps que l'Europe se fasse. Parole d'Alain Souchon. À 10 semaines des prochaines élections européennes, nous donnons ce matin le coup d'envoi d'une grande opération de la RTBF qui s'appelle Un ticket pour l'Europe. Et dans cette émission, les Belges du bout du monde, on ne pouvait pas passer à côté, évidemment. Bonjour Mehdi Kelfat.
Bonjour à tous.
Vous êtes l'initiateur de ce ticket pour l'Europe. Vous nous racontez le concept ?
Alors le concept, il est simple. On a lancé un grand casting sur les réseaux sociaux à la recherche de jeunes Belges qui souhaiteraient découvrir l'espace européen et découvrir les thématiques autour de l'Union européenne. Donc on a lancé cet appel aux alentours du mois de septembre-octobre et on a eu plus de 700 candidats et on a sélectionné 8 jeunes Belges qui sont d'un peu partout en Belgique francophone, de Bruxelles, de la province de Liège, du Hainaut, Luxembourg, Brabant Wallon, Namur.
Tout profil, tout métier
confondu pour leur proposer une aventure. De pouvoir avoir un ticket pour l'Europe, un ticket qui va leur permettre de voyager à travers l'Europe et de découvrir des thématiques qui sont liées aux politiques européennes.
Premier jeune à être parti cette année, c'est Quentin Weiss. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur au pays des collines, vous habitez Elzel.
Hein ? Oui, exactement. Ouais.
Pour faire plus ample connaissance avec vous, voici un extrait de l'émission qui est déjà disponible depuis ce matin sur ovio.be. C'est une émission télé, enfin c'est multimédia, la RTBF maintenant, c'est radio, télé, le web, les réseaux sociaux. Et on vous découvre là-bas, les pieds dans votre exploitation familiale.
Salut à tous, moi c'est Quentin, j'ai 24 ans, je viens d'Elzel et dans la vie je suis agriculteur. Dans mon travail j'écoute énormément de musique, principalement de la pop des années 2000. J'ai grandi en écoutant Beyoncé, Britney Spears ou Lady Gaga. Quand j'ai le temps, j'adore aller en friperie, en brocante ou en magasin de seconde main. Mon copain est mon super binôme pour ça, on trouve toujours des objets qu'on aime bien. Ce que je préfère dans mon métier, après le travail avec les animaux et la nature, c'est de travailler en famille. J'accorde beaucoup d'importance à ma famille, j'ai déjà hâte de partir. Bon, je devrais laisser mon chien, ça c'est l'inconvénient. Mes amis disent de moi que je suis entier, drôle, les pieds sur terre, quand ils sont pas dans la terre. J'ai vraiment hâte de voir ce que cette expérience me réserve et je suis sûr qu'elle va m'offrir des super moments et que je vais en garder des beaux souvenirs.
Quentin Weiss, premier lauréat du ticket pour l'Europe. Ça fait drôle de s'entendre et de se voir à la télé, de s'entendre à la radio.
Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre à l'enregistrer, ça fait bizarre de s'entendre. Mais ce que j'ai dit à la fin, c'est tout à fait vrai, j'en ai des très bons souvenirs.
Oui. Il est souriant, on voit, il a des étoiles dans les yeux, Mehdi, et il raconte son voyage avec passion. Vous ne saviez pas au départ, c'est ça le concept de l'émission, vous ne saviez pas où vous allez partir?
Non, c'était un secret jusqu'au départ, il fallait piocher dans les indices qu'on avait pour essayer de deviner où on partait.
Ouais, c'est un petit côté rendez-vous en terre inconnue.
Oui, il y a un petit côté visa pour le monde aussi, ou un petit côté, l'Europe grandeur nature, l'Eurodyssée que vous aviez lancé il y a plus de 20 ans, qui nous a un peu inspiré, Adrien. Et la question, elle était intéressante, c'était qu'on rentrait dans une année un peu particulière, une année importante, une année d'élection européenne, mais aussi la présidence belge de l'Union européenne. Et puis pour la première fois, les plus de 16 ans peuvent voter pour les élections européennes. Et on s'est dit, nous, à la RTBF, comment on allait marquer le coup. Et on marque le coup comme ça.
Oui. Cette émission, alors, s'appelle Les Belges du bout du monde, la nôtre. Vous, c'est le ticket pour l'Europe, mais on va se marier pour les 8 prochaines semaines. Ce sera chaque fois avec un jeune parti, mais ce sera aussi avec un Belge du bout du monde, un compatriote à Malte, du coup, puisque c'est là que vous êtes parti, à Malte, où nous accueillons Luc Heugebart. Bonjour Luc.
Et bonjour.
Vous avez étudié à Solvay, vous avez quitté la Belgique en 1988, vous avez bourlingué un peu partout avant de vous fixer à Malte il y a 10 ans. Alors où êtes-vous précisément dans l'archipel maltais ?
L'archipel maltais, c'est principalement deux îles, la principale, Malte même, et une petite île à côté, mais 85% de la population à peu près vivent sur Malte. Je suis à Malte et je vis dans le sud de l'île, dans la partie la plus ancienne, c'est-à-dire la partie où les chevaliers de l'ordre de Malte, en fait c'est l'ordre de Rhodes et de Malte, se sont installés en 1530. Un petit détail intéressant, c'est un lien historique entre Malte et la Belgique, qu'en fait très très peu de monde cite, c'est que Malte fut donnée par Charles Quint au chevalier Charles Quint, qui est né à Gand en 1500. Donc, en fait, Malte n'aurait pas existé sans Charles Quint. J'ai cherché un lien historique, voilà le lien historique.
Voilà. Chapeau, hein, en tout cas, chapeau. Alors, autre lien, bah parce qu'en Belgique, on est fou de BD, c'est que Corto Maltese, d'après son créateur Hugo Pratt, serait né le 10 juillet 1887 à Lavalette. On l'écoute, Corto Maltese, évoqué dans cette chanson de Sylvia Fels sur la première. Corto Maltese, dont vous pouvez voir les fresques et les dessins à Bruxelles, près de Tour et Taxi, le long du canal. Il est originaire de la Valette, Malte. Alors, tant que nous sommes dans les mythes, Malte serait aussi l'île de Calypso et Ulysse aurait succombé à ses charmes en passant 7 années dans une grotte à Gozo. C'est ce que raconte Homère dans l'Odyssée, hein, Luc Hugebart. J'imagine que ça fait partie un peu des légendes de Malte.
Je crois qu'il y en a une plus importante, c'est aussi que Saint-Paul aurait été naufragé à Malte en voyageant comme esclave vers Rome. Et anecdote, c'est qu'une des grandes fêtes religieuses de l'année, c'est le naufrage de Saint-Paul, à quoi moi j'ajoute en rigolant, c'est le seul pays où on célèbre un désastre.
Vous en savez des choses, je crois qu'on va bien s'amuser avec vous d'ici 10
ans. 10 ans sur l'île, je connais pas mal de détails.
Ouais. Vous faites du voilier aussi, vous avez tant de temps au Blue Lagoon.
Non, c'est plein de touristes, éviter à tout prix. C'est de nouveau petit avantage de Malte, c'est que j'ai un voilier que j'ai acheté une vingtaine d'années quand je vivais en Angleterre. Il est dans une marina qui est à 300 mètres de chez moi. Je crois qu'il y a très peu de pays en Europe où on peut habiter et avoir son voilier à 300 mètres de chez soi.
Il est presque au garage, quoi. C'est vraiment en dessous de chez vous, c'est bien, c'est top.
Littéralement.
Oui, oui, oui. Alors, on va présenter maintenant l'île de Malte avec Pierre Gallo et Quentin. Bon, on peut expliquer un peu qui est Pierre Gallo ?
Pierre, c'est la personne avec qui on avait un contact en commençant l'aventure dès le casting. C'est lui qui était déjà dans la pub sur les réseaux sociaux pour les castings. Puis ensuite... il parlait avec nous.
C'est le présentateur de l'émission. Ouais. Il intervient régulièrement. Dès que vous devez scanner un QR code, il vous donne des infos sur la prochaine destination où vous allez. Et quand vous arrivez à l'aéroport, vous scannez le premier QR code et il décrit l'île de Malte. Écoutez-le.
Salut Quentin, c'est donc à Malte que tu seras dans quelques heures. Et ce pays, c'est une toute petite république qui fait à peine 2 fois la taille de la région Bruxelles-Capitale. Il y a à peu près 520 000 habitants dans le pays, ce qui est pas beaucoup. Et il y a 2 langues officielles, l'anglais et le maltais. Malte est une destination touristique réputée. Il y a plein de monuments historiques classés, il y a plein de petites ruelles pittoresques, etc. L'architecture des villes y est incroyable. C'est tellement stylé que plusieurs tournages de films et séries comme Gladiator ou encore Game of Thrones y ont été réalisés. Le pays est devenu indépendant le 21 septembre 1964 et a rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004 en même temps que 9 autres pays. Et d'ailleurs, la présidente du Parlement de l'Union européenne, Roberta Metsola, est maltaise. Et voilà, c'était quelques infos en vrac sur Malte. Je te laisse te préparer pour ton vol et comme on dit là-bas, il viaggio tayeb, ça veut dire bon voyage.
Alors ça, c'était juste avant de monter dans l'avion, atterri de nuit, je crois, à Malte.
Oui, on est arrivé en soirée.
Première impression en posant les pieds sur le sol maltais.
Il faisait bon, déjà, ouais. Parce qu'en quittant la Belgique, il faisait assez froid par ici, là-bas, il faisait chaud. Et mes premières impressions, je ne savais pas trop où je devais aller, en fait. C'était de la surprise en arrivant, donc... Je ne sais pas. J'étais curieux.
Et vous, Luc, quand vous changez de vie il y a 10 ans, que vous arrivez à Malte, le premier contact avec ce pays ?
Mais en fait, j'étais déjà venu préalablement pour chercher un logement parce que je comptais m'installer ici pour quelques mois. Et je suis tombé sur des gens absolument charmants qui m'ont convaincu de ne pas aller dans la partie peuplée du pays, mais aller justement dans le sud. Et un peu par hasard, je me suis retrouvé en atterrissant avec une réception fantastique. On m'a pris à l'aéroport en voiture et on m'a amené dans un appartement dont je ne revenais pas. Et voilà, et c'est pour ça que je suis resté à Malte, parce que l'accueil fut tellement chaleureux.
On va continuer à voyager à Malte avec du rock alternatif en maltais. Dans le texte, c'est le groupe Brodou dans les Belges du bout du monde. «
tendo del melodia, ma ricci un assa messaggio, melodia antipatica, ritmo antipatico, melodia più precaria, prima tan stata le cacci, trova canzone ta ora, io mor salmandraci, col filo d'un omem dam dam, e snebbi c'è sciech marit, na bazzo me un faalo, anne filo sadit.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Très intéressant ce morceau de rock fabriqué à Malte par le groupe Brodou. Luc, vous qui êtes un fan de rock, il se passe pas mal de choses sur la scène musicale maltaise.
Oh, il y a deux ou trois groupes que j'appellerais de rock ou de musique alternative, ce qui pour une population d'un million d'habitants est pas mal.
Est-ce que vous parlez maltais, Luc ?
Pas du tout. Je connais quelques insultes et bonjour et bonsoir en maltais. Le bonjour se dit bonjour et le bonsoir, bonsoir. Bon, la langue maltaise est en fait une langue sémitique, très proche de l'arabe, du moins structurellement. Il y a beaucoup de mots arabes dedans. Je ne sais pas si Mehdi parle arabe, mais un arabe qui vient ici, en général, au bout de 2-3 jours, comprend quasiment tout.
D'accord.
Donc, la structure est arabe. L'orthographe, c'est écrit en latin, mais, et on y joint pas mal de mots italiens, anglais et français, mais structurellement, c'est de l'arabe.
D'ailleurs, merci se dit, petit test chez Quentin, comment dit-on merci en maltais ?
Grazie.
Voilà, grazie. Donc, c'est pas très dépaysant pour
un italien. Grazie.
Ah, grazie. Ah ben oui, il n'y a pas le E au bout. Merci, hein, Quentin.
On aurait compris.
Oui, absolument, absolument. On va écouter un petit extrait musical d'un film qui vous a sans doute marqué.
Les Belges du bout du monde.
Le roi de la route, hein, King of the Road, vous avez reconnu, Quentin ?
Pas du tout, ouais. Non.
C'est tiré du film Brokeback Mountain.
Ça, je connais.
Ah, voilà. Premier western homo, l'amour sur fond de paysages magnifiques, de feux de camp, de baignades nues dans les rivières du Wyoming. Ça nous éloigne de Malte, mais pas tellement de la thématique que vous avez choisi d'aborder là-bas.
Ben oui, en postulant pour l'expérience, j'avais des thèmes à choisir. J'en avais choisi trois. C'était l'agriculture, le climat et l'écologie. Je m'étais dit que ça ferait vraiment un beau package par rapport à mon métier.
D'agriculteur, hein, au Pays des Collines,
voilà.
On rappelle. Ouais.
Et j'avais aussi expliqué que d'autres sujets m'intéressaient, parce que j'étais ouvert à plein de choses, et notamment les droits LGBT en Europe, parce que j'étais dans le cas d'être en couple avec un garçon. Donc voilà, ça m'intéressait aussi parmi plein d'autres sujets.
Ouais, et du coup, ça fait un petit clin d'œil, cette musique aussi.
Ouais,
parce
voilà,
que, voilà,
c'est une combinaison.
Oui. Sans être cow-boy, vous vivez dans une ferme avec votre compagnon, votre cow-boy.
Ouais.
Et on va donc écouter le moment où, dans l'émission, vous découvrez la thématique grâce à un QR code envoyé par Pierre Gallo. Et il vous donne quelques infos et quelques chiffres aussi importants. Je crois que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs.
Malte est le pays d'Europe le plus avancé au niveau des droits LGBTI. Nous, on est très bons élèves, mais eux, c'est carrément la grande 10. Déjà à Malte, les personnes homosexuelles peuvent toutes donner leur sang. Alors qu'en Belgique, les hommes homosexuels ne peuvent pas donner leur sang s'ils ont ken il y a moins d'un an. Donc c'est soit tu donnes ton sang, soit tu as une vie sexuelle. À Malte, la procédure pour changer de sexe sur tes papiers d'identité est méga simple. Tu fais la demande devant un notaire et 30 jours plus tard maximum, bah, ton sexe est changé sur tes papiers. Et si tu te retrouves pas dans le genre femme ou homme, bah, tu peux choisir de mettre un X. Alors qu'en Belgique, c'est une toute autre affaire. Tu dois d'abord faire la demande à la commune qui va ensuite contacter le procureur du roi. Il a 3 mois pour répondre oui ou non. S'il répond non, c'est mort. S'il répond oui ou s'il répond pas, ça veut dire que c'est OK et que tu peux retourner à la commune pour faire le changement de sexe. Et c'est soit homme, soit femme, il n'y a pas d'autre genre qui tienne. Bon, il y a encore plein d'autres diffs qui font que Malte est bien au-dessus niveau des droits LGBTI, mais on n'a pas 2 heures devant nous, donc je vais m'arrêter là, ça vaut mieux.
Alors comment, Quentin, avez-vous abordé cette thématique à Malte ?
Ben, en arrivant à La Valette, j'avais déjà remarqué beaucoup de drapeaux arc-en-ciel qui pendaient. Et puis en voyant la vidéo de Pierre, je me suis dit, c'est parfait en fait, tout va bien ici. C'est ce que je m'attendais de Malte, c'est la fête, l'ouverture d'esprit. Et au final, cette vidéo m'amène à faire une rencontre dans la ville, à La Valette, dans un café, où je rencontre un activiste pour les droits LGBT qui lui m'explique que la situation... elle n'est pas parfaite et surtout pas pour tout le monde, en fait. Il y a encore des minorités au sein de cette communauté-là.
Il s'appelle Shakib.
Exact, oui.
Vous l'avez rencontré dans un bar.
Oui.
Et on a un extrait, évidemment, de l'émission, qui est déjà en ligne, hein, l'émission télé sur ovio.be. Écoutez, Shakib et Quentin, avec une ambiance de bar et de musique derrière, hein, c'est normal.
À Malte, il y a l'image de LGBTIQ, c'est la meilleure en Europe, mais je trouve que ça, c'est très commercialisé, que ce n'est pas la vérité. Que la preuve, il y a plein de demandeurs d'asile qui vivent dans des centres de détention. Qu'il y a beaucoup de viols des demandeurs d'asile LGBT. Qu'il y a beaucoup de discriminations de travail pour les communautés LGBT. Donc ça, c'est le problème.
Et dans ton quotidien, justement, pour faire changer ces choses-là, pour changer les idées, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Parce que je sens que tu as besoin de changement, que tu as envie d'améliorer les choses quand même.
Je suis un activiste. Qu'est-ce que c'est un activiste? Un activiste est un artiste activiste. Ça veut dire, à travers mon corps, travailler avec d'autres artistes engagés sur les thèmes de la migration, aussi sur les thèmes des minorités. Je travaille beaucoup sur la justice sociale. Et aussi, j'ai fait un petit solo avec un artiste maltais qui est aussi un activiste. Si tu as vraiment envie, tu peux venir avec moi dans le studio pour voir petit spectacle. Oui, et après, tu vas apprendre une petite danse avec moi. Promis.
Ok, cool. Promis, je le ferai.
Tu es prêt pour aller danser?
On y va.
Allez, on y va. Ça va être super.
Et tu t'es très bien débrouillé. Hein.
Mais moi, j'avais hâte. J'avais vraiment envie de danser.
Oui, oui, ça se sent, ça s'entend. Prêt pour danser avec les stars, quasiment.
Ah ben, si on me propose, moi j'y vais.
Oui, oui. Artiviste, c'est une très belle explication de ce que fait Shakib.
Ouais.
Comme quoi, l'herbe n'est pas plus verte dans le pré du voisin. On a l'impression que ça va beaucoup mieux à Malte, mais il y a aussi...
C'est des paradoxes, en fait, ouais. tout le long de cette rencontre-là.
Malte reste un tout petit pays, assez concentré. Les gens vivent quand même dans... Je ne vais pas dire les uns sur les autres, mais la densité de population la plus élevée d'Europe, et ça a des conséquences. Culturellement, c'est aussi un pays qui, malgré son ouverture dans un certain sens, c'est aussi un pays qui reste relativement religieux, si ce n'est pas le pays le plus catholique d'Europe. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qui est peut-être vrai. Donc, il y a quand même une influence de l'Église élevée, surtout si on considère... la discussion que vous venez d'avoir.
Oui.
Donc il y a une petite ambiguïté là-dedans.
Oui.
Mais en fin de compte, tout se résout parce qu'on vit les uns avec les autres et dans mon environnement à moi, les gens sont tolérants.
Une grande tolérance. Vous parliez de la présence religieuse. Il y a une image qui dit qu'il y a autant d'églises à Malte que de jours dans l'année. Donc 365 sur ce petit bout de territoire. Combien de kilomètres, Malte, on rappelle? 14 kilomètres de long
Malte a une superficie totale de 320 km², ce qui est, pour ceux qui connaissent mieux l'Angleterre, c'est l'île de Wight. C'est tout petit. C'est la moitié de Singapour. C'est un tout petit pays. Luxembourg, qui a la même population, est nettement plus grand.
Oui. On va marquer une toute petite pause de pub et nous revenons tout de suite pour la suite de nos aventures, les Belges du bout du monde et le ticket pour le plus petit pays d'Europe, Malte.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jovenot.
Merci de nous écouter le dimanche en direct sur la première ou quand vous voulez grâce à notre podcast accessible sur Ovio et toutes vos plateformes de téléchargement. Un ticket pour l'Europe, c'est la nouvelle série qui démarre aujourd'hui, dimanche 31 mars. L'initiateur de cette série est avec nous, Mehdi Kelfat. Alors Mehdi, visiblement, moi j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première, vous jouez un peu avec les codes de la télé-réalité. On l'entend avec des confessions, des musiques, des surprises, du suspense.
Bah, l'idée de base, c'est une idée qui vient de la rédaction Info, donc de l'info. Mais comment délivrer une info autour des questions européennes directement au public concerné, c'est-à-dire les primo-votants, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, et comment les capter sur des thématiques qui peuvent parfois paraître un peu complexes. Bah, on a travaillé en équipe avec un super producteur qui s'appelle Nicolas Coussa, avec un concepteur de contenu multimédia qui s'appelle Lucas Vanek, et est venue l'idée de ce ticket pour l'Europe qui va servir de lien entre les jeunes, les 8 jeunes qui vont partir, et le public. Et donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'on va croiser les histoires, les aventures. Vous allez vous attacher à Quentin comme nous, on s'est attaché à Quentin. À travers ses yeux, vous allez faire des rencontres, vous allez découvrir des paysages aussi. Enfin voilà, donc c'est ça qui est assez sympa, et tout ça dans la bienveillance, bien sûr, mais avec l'idée d'amener à chaque fois du fond, de la réflexion, de la découverte, et de partir à chaque fois sur des thèmes qui sont liés aux politiques européennes.
Oui, parce que là, on découvre Malte aujourd'hui, mais c'est en dehors des sentiers touristiques. Hein. Vraiment, on apprend plein de choses grâce à vous, Quentin. Et je vais vous faire une confidence, Quentin. Il y a tout juste 20 ans, Mehdi, il était à votre place.
Ah bon ?
Il avait été lauréat d'une émission aussi qui s'appelait L'Europe Grandeur Nature.
Ouais, exact.
Et puis, vous voyez ce qu'il est devenu. Vous allez rester, ça vous a donné envie, parce que comme agriculteur, j'imagine que vous ne pouvez pas souvent partir en vacances, souvent voyager. Il faut être là tous les jours à la ferme.
Exactement. Je n'ai pas voyagé énormément avec mes parents. Les voyages que j'ai faits, c'était avec l'école. Et Malte, c'est vrai que j'ai vu une autre facette parce que j'avais peur du côté très touristique de ce pays-là. Mais je l'ai vu autrement et ça, c'était chouette. Ouais. Et ce que j'ai aimé aussi, c'était casser les préjugés qu'on peut avoir sur un pays aussi en allant vraiment voir les gens. C'est totalement différent qu'en étant un vrai touriste.
Vous nous disiez au début de l'émission que vous avez grandi avec la pop des années 2000. Est-ce que ceci vous dit quelque chose ?
Bien sûr, oui. Britney.
On l'écoute encore une fois. Baby One More Time. C'est la pop qui a bercé votre enfance, alors, du côté d'Elzel.
Ouais, j'ai toujours été attiré par la pop et surtout les chanteuses, en fait. Parce que c'est des femmes puissantes qui n'ont pas peur de provoquer, de se mettre en avant. J'ai toujours bien aimé ça, je ne sais pas pourquoi.
Alors, vous avez grandi du côté d'Elzel, vous y êtes toujours. C'est la ferme de la famille où vous travaillez ?
Ouais, c'est la ferme de mes parents. J'ai grandi à Elzel et j'y suis toujours et je compte vraiment y rester. Je suis amoureux de cet endroit parce que déjà, c'est beau et puis... Toute la famille y vit. Mes sœurs y sont restées. On ne s'éloigne pas trop. Je vois mes cousins sont restés près de leurs parents aussi. On est vraiment... toute ma famille est là. Et ouais.
Ouais, c'est le pays de Frédéric Thiébaud aussi, qui est co-auteur des livres du Beau Vélo de Ravel et des Belges du Bout du Monde. On y va souvent dans votre région parce que votre ferme, elle est quasiment le long du Ravel, Quentin.
Ah, elle est complètement le long du Ravel et vous êtes passé il y a quelques années par chez nous.
Et mon petit doigt me dit qu'on va peut-être retourner l'été prochain, 2024. On est en train de vous préparer une nouvelle saison. Alors, l'agriculture fait partie intégrante de votre vie. C'est évidemment votre métier. On ne peut pas faire sans évoquer l'actualité, les manifestations. Vous étiez à Malte pendant les manifs ou bien vous étiez...
Non, les manifs ont commencé une semaine ou deux après mon retour.
D'accord. Et vous vous positionnez évidemment dans ce mouvement. Vous êtes un peu critique par rapport à l'Europe. Et comment ça s'est passé à Malte ? J'ai beaucoup de questions en même temps, mais je vous laisse répondre un peu à celles que vous voulez.
Mais sur mon voyage de 4 jours à Malte, il y a un jour qui était consacré à l'agriculture. Et c'était un producteur de fromage de brebis, un fromage typiquement local, le Gbeina. Donc on a rencontré ce producteur. J'ai discuté avec le fermier de ce qu'il pensait de l'Europe. Il y avait des contraintes, comme nous on connaît aussi, par rapport à l'eau, par rapport aux déjections animales dans les champs, dans les prairies. Mais je n'ai pas rencontré vraiment de problème majeur chez ces gens-là, parce que c'est un producteur qui écoulait toute sa marchandise dans des restaurants assez réputés. Il était proche de la ville, donc il n'avait pas de soucis pour écouler sa marchandise et il n'était pas soumis à des... aux grands marchés qui ont fait démarrer les manifestations, par exemple.
Ouais, pas les mêmes problèmes que chez
voilà.
nous ici.
Ouais, ouais. On est soumis aux marchés mondiaux. On est, ouais, voilà, c'est plutôt cette agriculture-là qui a du mal, quoi.
Mm-hmm. Alors, Malte est aussi un des pays les plus secs au monde. C'est difficile pour l'agriculture. Mais j'ai vu dans le reportage que vous avez eu de la pluie.
Oui. Quand j'ai vu le QR en me disant qu'il y avait des pommes de terre et des oignons à Malte, j'étais vraiment étonné parce que pour moi, c'est quand même un pays relativement chaud et je me suis dit, j'ai halluciné, je me suis dit, on fait des pommes de terre ici, donc tout doit être arrosé, tout doit être irrigué, ça doit être quelque chose quand même. Ouais.
Il y a une vallée où il y a un peu plus de pluie qui tombe qu'ailleurs, c'est justement la vallée où il y a la plus grosse partie de l'agriculture.
Hein.
Ils ont un peu plus d'eau que le reste du pays.
D'accord.
Et effectivement, il y a des pommes de terre qui sont excellentes.
Ouais. L'huile d'olive aussi, quelles sont les autres cultures locales importantes pour Malte, Gozo et Comino?
On y cultive un peu de tout. Il y a aussi du saisonnier, il y a des citrons et des oranges à certaines saisons. Les oranges sont délicieuses. Il y a aussi les fraises. Alors la saison des fraises commence d'ici une quinzaine de jours. Pendant 3 mois, on a des fraises extraordinaires, arrosées bien évidemment. Mais le climat est parfait pour les fraises pendant 3 mois.
Est-ce qu'elles sont aussi bonnes que les fraises d'Elzel, cultivées par Quentin Weiss? vous faites des fraises aussi
ouais,
chez
ouais,
vous.
Ouais.
C'est un peu plus tard dans la saison.
Oui, j'aurai le temps d'aller goûter à Malte les fraises et de revenir m'occuper des miennes d'ici mai.
Ouais. Ouais. Vous, c'est quoi? C'est autour du 1er mai. Hein.
Oui, aux alentours du 10 mai, on est dedans.
Elles sont aussi bonnes qu'à l'Aide-d'Ain ou à Wépion.
Je ne dirais rien, on les aime bien.
Ouais.
On fait notre maximum pour qu'elles soient bonnes.
Ouais. Quels sont dans votre exploitation agricole les produits que vous cultivez, Quentin?
Notre principale spéculation, c'est le lait, les vaches laitières. On fait aussi des cochons en engraissement. Mais là, c'est un partenariat avec un boucher du village. Donc, c'est vraiment un circuit relativement court. Au niveau des cultures, ben, tout est consacré à l'alimentation des vaches. Hein. On a du maïs, on a de l'herbe, on a des betteraves fourragères, 100% pour les vaches.
J'ai vu dans l'émission qu'un jour, vous devez vous lever à 5h du matin pour une rencontre.
Oui.
C'est l'horaire auquel vous êtes soumis dans votre quotidien de fermier ou d'agriculteur?
Ben, non, on ne se lève pas à 5h, on ne fait pas partie de cette équipe-là. On se lève vers 7h30, quelque chose.
C'est tranquille, ça.
On n'habite pas tous sur la ferme, donc c'est pour dire que chacun puisse avoir quand même une vie de famille, s'aménager des horaires comme on aime bien. Et...
Ouais. Donc vous avez des frères et sœurs qui travaillent aussi sur la ferme?
Je travaille sur la ferme avec mes parents, donc, ma grande sœur et son copain.
C'était votre rêve de reprendre la ferme, de travailler dedans? Vous avez fait des études pour ça?
J'ai longtemps hésité. Hein. J'ai fait un bachelier en construction à Mons et... J'ai jamais été convaincu et je me suis quand même décidé en dernière année. Je me suis dit oui, c'est à la ferme que je veux rester. Mais j'ai quand même été voir ailleurs, voir si quelque chose d'autre pouvait me tenter.
Alors Luc, vous c'est la finance, hein, vous avez étudié à Solvay, vous avez beaucoup bourlingué. Si on doit épingler l'un ou l'autre pays ou l'un ou l'autre job que vous avez fait dans votre vie avant d'être à Malte, qu'est-ce que vous diriez?
C'est un peu dans l'actualité actuelle, c'est que j'ai passé 2 ans en Russie juste après la fin de l'Union soviétique. Où là, j'ai voyagé du fin fond de la Sibérie au Kyrgyzstan, à Saint-Pétersbourg. J'ai tout vu dans un contexte très, très difficile. Toute la structure, toute la sécurité que les Soviétiques connaissaient avait disparu. Et donc, c'était un pays où le lendemain était une inconnue totale pour tout le monde, tous les jours. Donc, ça restera probablement un des souvenirs les plus marquants de ma carrière.
Avec aussi un accident de voiture au Kyrgyzstan qui a fait que votre vie a basculé.
Exactement. J'étais allé voir le patron d'une usine d'antimoine sur un lac à 3000 mètres d'altitude au Kyrgyzstan. Et en allant de là vers une raffinerie de zinc en Ouzbékistan, j'ai eu un accident de voiture à relativement haute altitude. On était 4 dans la voiture, 3 blessés graves sauf moi. J'ai eu beaucoup de chance. Ça m'a mis pas mal de choses en perspective et j'ai décidé d'arrêter ce genre d'aventure-là.
On va se faire un petit peu plaisir aussi ce matin, puisqu'on est à Malte, archipel de la Méditerranée avec beaucoup de produits locaux. J'imagine que ça déteint sur la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange de bon un dimanche midi ou un jour comme ça où on a un peu le temps du côté de la Valette ou de Malte en général?
Bon, moi, je suis à Malte depuis 10 ans. Et en 10 ans, le nombre de restaurants qui s'est ouvert ici est absolument hallucinant. Il y a une explication économique relativement simple à ça. C'est un pays qui, de grosses lignes, se porte très bien économiquement, malgré un tas de choses qui sont un peu étranges. Mais la croissance a été forte ces dernières années. Et ce qui dit croissance forte veut dire qu'il y a un enrichissement moyen de la population. Qui dit ça dit qu'on y mange de mieux en mieux. On verra ça dans tout pays où il y a croissance. Et donc ici, maintenant, on a d'excellents restaurants partout. Alors pour ce qui est de la nourriture à Malte, c'est, comme vous l'avez dit vous-même, un pays très sec. Donc il n'y a quand même pas tellement. Et s'il y a un peu d'agriculture, elle n'est pas énorme. Donc la plus grosse partie de l'alimentation est importée, surtout de Sicile. La Sicile, qui est un beaucoup plus grand pays, la Sicile, c'est 75% de la Belgique, je crois, à peu près, qui a une énorme agriculture et qui exporte beaucoup vers Malte. Ce qui est en voie de disparition, c'est le poisson, mais ça, c'est partout. Donc un pays qui vivait beaucoup de sa pêche, on bénéficie beaucoup moins maintenant. Les bateaux de pêche ont quasiment disparu, il en reste quelques-uns, mais ce n'est certainement plus que c'était il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et de là aussi, le mécontentement de pas mal de pêcheurs envers l'Union européenne.
Les agriculteurs ici et les pêcheurs à Malte. Mmh. Chacun, voilà, des métiers essentiels. Hein. On va marquer une pause avec un groupe de Malte, de Gozo, hein, l'île voisine. C'est Chasing Pandora avec Feel the Rain.
Retrouvez les photos et les vidéos des Belges du bout du monde sur nos pages Instagram, hashtag La Première et Adrien Jovenot.
Feel the Rain, c'était Chasing Pandora, groupe de Gozo. Alors comment est-ce qu'on va à Gozo? J'imagine qu'il y a des liaisons régulières depuis Malte. C'est quoi? C'est une demi-heure de bateau, Luc?
Il y a un ferry rapide depuis La Valette qui met une quarantaine de minutes, je crois, mais qui permet de partir depuis le centre peuplé de l'île.
En passant au large de Comino aussi, petite île, pas déserte, mais il n'y a pas grand monde, hein.
C'est totalement inhabité, mais il y a pas mal de touristes en été qui y vont pour la journée.
Ouais, ouais. Vous avez pris le bateau à Malte, Quentin ?
J'ai pris le bateau pour rejoindre La Valette.
Ouais.
L'hôtel se trouvait à Sliema et on était à La Valette en ferry.
Ouais. Alors à La Valette, je crois que c'est là que vous avez rencontré à l'université,
oui,
une jeune activiste qui travaille sur le droit des femmes.
Oui, c'est une militante pour le droit à l'avortement en fait, parce que j'ai été surpris d'apprendre qu'à Malte c'est interdit. Et donc, elle, son moyen de protestation, c'était de coller des stickers un peu dans la ville pour faire passer des messages aux femmes qui pourraient être concernées en disant, voilà, vous savez trouver de l'aide là, vous n'êtes pas seule, voilà.
Pour aborder cette thématique, une chanson de Barbara Pravi, qui est magnifique, on en écoute un extrait, ça s'appelle « Cher ». C'est dans les Belges du bout du monde, sur La Première.
8h27, le ciel bleu rend presque l'hôpital joli, presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi, une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps. Une pilule, puis voilà, la honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça.
Mais c'est trop tôt pour ça.
Barbara, vous êtes sûre? On t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous n'êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu y as pensé.
Bien sûr que tu y as pensé.
8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. T'as 20 ans. 20 ans, c'est beau, non? Pourtant, tu sais pas bien, la confiance à zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins. Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. Mais au fond, tu te vois comme ils te regardent, eux. Sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir. Et tu crois que le sexe est lié à la violence. Tu crois que l'essentiel, c'est de garder la face. Si tu joues bien, ça passe. Quand on joue bien, tout passe. Tu fuis en avant pour ne pas t'écouter. Ne pas te comprendre, même pas te respecter. Tu te coupes les cheveux courts, te tatoues de conneries. Les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent. Et les larmes dans l'aube. qu'est-ce que tu peux y faire?
Histoire vécue, hein, Barbara Pravi, sa chanson s'appelle Cher. L'avortement, vous l'avez, je ne vais pas dire étudié, mais abordé, vous en avez parlé beaucoup avec Maya, oui. Une jeune femme, quoi, une vingtaine, trentaine d'années.
Oui, le même âge que moi, je pense, ouais. 23 ans.
Ouais. Il y avait un QR code qui vous donnait quelques indices pour la repérer. Ça fait un peu chasse au trésor, hein, oui, ça n'a pas été facile. Vous avez fini par la trouver, c'était sur un campus?
Oui, c'est sur un campus, je m'attendais à la trouver dans une maison étudiante ou quelque chose comme ça, mais... Dans mon esprit, je ne savais pas que c'était vraiment interdit, donc je me suis dit qu'il devait avoir quelque chose, une association qui distribue des moyens de contraception peut-être, je ne sais pas, mais en fait non, c'était rendu dans l'université pour qu'elle puisse apposer ses stickers, qui sont régulièrement enlevés d'ailleurs, ouais. Qu'elle me racontait.
Parce qu'on rappelle que l'avortement est interdit,
oui.
À Malte. Écoutez d'ailleurs Maya à votre micro là-bas à Malte.
Vous ne pouvez pas placer les droits des personnes LGBTQ au premier plan et en même temps ne pas avoir accès à l'avortement. L'état de la contraception est également catastrophique à cause de l'absence de choix. Beaucoup de femmes n'utilisent pas de contraceptifs. Et donc, nous avons un taux très élevé d'infections sexuellement transmissibles. Nous avons un taux élevé de grossesse chez les adolescentes. Et c'est juste considéré comme normal. C'est un état de fait. Disons que l'éducation sexuelle a été mise à la poubelle. Nous n'avons pas de programme standardisé, mais nous avons des lignes directrices. Il est recommandé aux enseignants d'enseigner aux élèves le modèle ABC, qui est l'abstinence, la fidélité et la contraception. Donc oui, il y a une grande influence de l'Église.
Et on l'entend, il pleut derrière vous. Hein. C'est pas sous la douche l'interview.
Non, hein. Non. On est quand même abrité, ça valait.
Chapeau, hein, parce que vous avez mené toutes ces interviews en anglais.
Oui.
Ouais, alors que c'est pas du tout votre métier. Hein.
Non. Bah, c'est des bonnes bases que je connais de l'école et... Et j'aime bien exercer comme ça.
Oui. Puis rencontrer aussi, vous avez rencontré des gens d'univers tout à fait différents.
Ah oui, clairement. Ouais. C'est pas le type de personne que je rencontre dans mon quotidien non plus. Mm-hmm. Donc.
Alors le 17 avril, vous allez rencontrer des commissaires européens, des présidents de partis pour une émission spéciale qui se fera en direct du Parlement européen à Bruxelles. Et vous aurez l'occasion de poser des questions, de faire des propositions. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire comme proposition?
Ma proposition, elle devait être... Pour moi, ça coulait de source qu'elle devait être en relation avec le voyage que j'avais fait. Et donc, je me suis plus orienté vers ce sujet de l'avortement parce que ça m'a vraiment marqué en allant là-bas. Je ne m'attendais pas à ça. Encore une fois, c'est paradoxal par rapport à un pays dont on a l'image de la fête, du tourisme, de l'ouverture d'esprit, d'avoir comme ça l'avortement qui est interdit et les femmes en difficulté. Parce que je n'imagine pas ce que ça doit être de devoir faire ça seule, chez soi, à la maison. Parce que... Avant 12 semaines, les femmes ont des moyens de commander une pilule, mais à l'étranger. Et donc, elles la prennent chez elles, mais elles restent toutes seules face au risque. Et si elles ont un risque médical, si elles se présentent à l'hôpital, elles ont de risque par rapport à la loi aussi. Donc, elles sont dans une situation compliquée. Et j'ai vraiment été choqué de ça. Et donc, moi, ma proposition, ce serait de... C'est très idéaliste, mais ma proposition, c'était d'inscrire l'avortement dans les droits fondamentaux humains au niveau de l'Europe. Parce que c'est une chose qui n'est pas faite. Parce que tous les pays doivent voter à l'unanimité, en fait. Ouais. Mais je trouve ça aberrant au sein de l'Europe qu'il n'y ait pas une protection. Je ne sais pas comment expliquer, mais que l'Europe en elle-même, la grosse institution, ne puisse pas intervenir quand des pays décident de couper ce droit-là à ses habitants.
En tout cas, c'est très généreux de votre part parce que vous travaillez dans un milieu tout à fait différent, l'agriculture. Moi, je me suis dit, tiens, il va faire une proposition de loi sur le monde agricole. Eh bien non, pas du tout. Vous pensez aux droits des femmes. Merci beaucoup, Quentin, pour ça. Et puis, pour la suite, on peut vous voir en télé, je le rappelle. Ça passera sur Tipeee dans quelques jours. C'est déjà sur ovio.be et ça s'appelle Un ticket pour l'Europe. Allez, on fait une dernière escale à Malte, le pays que vous avez visité pendant une semaine pour ces reportages. Malte est un morceau d'Afrique en Europe. Hein. Elle est à la fois en Orient et elle est Occident. Malte, cette île riche que vous découvrez depuis 10 ans. On en apprend encore tous les jours sur Malte. Luc Heugebart, vous qui êtes notre Belge du bout du monde sur place.
Absolument. Au bout de 10 ans, je ne sais toujours pas tout sur l'île. C'est une bonne façon d'écrire ça. C'est quelque part entre l'Afrique et l'Europe. Malte se trouve en fait au niveau de Tunis, au niveau latitude. Donc oui, c'est un peu l'Afrique, c'est un peu l'Europe au niveau construction. Quentin a dû voir ça quand elle est venue la visiter. Les constructions sont un peu comme ce qu'on trouverait en Afrique du Nord. Le climat est très proche de ce qu'on a en Afrique du Nord. Donc oui. Sinon, j'apprends l'histoire. C'est une histoire complexe. C'est une histoire qui, en fait, a un point commun avec la Belgique, c'est qu'on a eu tellement d'invasions de toutes sortes de cultures différentes qu'il y a des aspects de toutes sortes de cultures que l'on retrouve à tout moment. La culture arabe, la culture française dans la langue. Il ne faut pas oublier que Napoléon a envahi Malte en 1798, pendant 2 ans seulement. Mais les Français ont été ici, ont eu une grande influence, par exemple, au niveau juridique, le droit français, le droit napoléonien. Une influence anglaise, puisque les Anglais ont été ici pendant 170 ans. L'Italie, l'Espagne, c'est un melt-pot culturel extraordinaire. J'apprends tous les jours dans toutes sortes de domaines.
Et votre coup de cœur, si vous aviez un endroit favori sur l'archipel, Luc, ce serait où ?
Bonne question. Gozo, probablement. Gozo est un des coins totalement vides, malgré la population, avec des vues sur la mer qui sont extraordinaires.
Des falaises exceptionnelles.
Sinon, je dirais peut-être, je ne sais pas si Quentin a eu l'occasion de visiter Médina.
Rabat, Médina, j'ai vu ça, oui.
Oui,
il me semble, on a été là.
Médina est un endroit absolument extraordinaire en Europe.
Ce n'est pas le bout du monde, hein ?
Mais exactement, c'est ce que je trouvais un peu amusant dans le nom de l'émission, les Belges du bout du monde, mais je suis à Bruxelles en moins de 3 heures, donc je ne me sens pas au bout du monde. Je suis dans un pays attirant et exotique, si on veut, au niveau climat, mais je ne suis pas loin.
Et ce sera comme ça pour les 8 prochaines semaines, 8 pays d'Europe dans le cadre de cette opération Un ticket pour l'Europe. La semaine prochaine, par exemple, nous serons en Suède avec Luca Pavone, votre successeur, le dossard numéro 2, ouais. Et Amandine Pekel, conseillère économique et commerciale de l'AWEX à Stockholm. Merci à Paul Michel qui réalisait cette émission, mise en image par Léa Defour sur les réseaux sociaux des Belges du bout du monde, une production de Françoise Pastel. Je vous souhaite une bonne continuation, Quentin Weiss.
Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli.
Et on se retrouve à vélo au début du mois de mai pour un voyage avec tous les lauréats de l'opération, ok ?
Ouais, il va falloir que je m'entraîne, mais j'ai hâte, ouais.
Vous apporterez des fraises ?
Allez, ouais, si elles sont déjà là.
Je viendrai les goûter, les fraises.
Ah. On vous attend dans un instant au tournant avec Arnaud Roysen, juste après le journal de 10h.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Podcast. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.